présence le grand entretien.
On les appelle les mineurs non accompagnés. Ce sont des jeunes de moins de 18 ans qui n'ont pas la nationalité française et qui se trouvent sur le sol français séparés de leurs représentants légaux. Alors, vous vous en souvenez, hein, l'un d'entre eux s'est tristement illustré le 25 septembre dernier lors d'une attaque au couteau. C'était près des locaux de Charlie Hebdo. Alors, ce matin, on se pose la question, qui sont ces jeunes dont certains sont encore des enfants? D'où viennent-ils? Mais surtout, comment ils sont pris en charge? Réponse avec mon invité. Bonjour Véronique Desfours.
Bonjour.
Vous êtes directrice enfance-famille au département de Haute-Garonne. À ce titre, vous avez la responsabilité de la prévention jeunesse, de l'aide sociale à l'enfance, qu'on connaît sous le nom de l'ASE, et de la PMI, la protection maternelle infantile. Alors, on le comprend à travers votre titre et votre responsabilité, hein, la prise en charge de ces jeunes, ces mineurs non accompagnés, c'est une compétence des départements, une compétence départementale. Alors, s'il vous plaît, Véronique Desfours, avant de nous éclairer sur le parcours de ces jeunes, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler ce que dit le droit français, ce que dit la loi par rapport à ces mineurs non accompagnés? On leur doit quoi, en fait, et pourquoi?
Alors, on leur doit... Alors, effectivement, ces mineurs non accompagnés donc, relèvent de la compétence exclusive du conseil départemental. Le président du conseil départemental est pilote de la protection de l'enfance. Et à ce titre, les personnes qui se présentent mineures privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, c'est ce que dit la loi, sont pris en charge par le conseil départemental.
On leur doit une forme de protection, c'est ça?
On leur doit une forme de protection parce qu'ils sont seuls sur le territoire français sans représentant de l'autorité parentale, donc considérés comme vulnérables et mineurs, isolés et donc considérés comme en danger. Et c'est pour cette raison qu'ils relèvent de la protection de l'enfance.
Et est-ce qu'on cherche, et si on ne le fait pas, pourquoi, à retrouver leurs parents, à ces enfants? On verra que certains sont très jeunes. Est-ce qu'on les recherche, leurs parents?
Alors, ça dépend de l'histoire que va nous raconter le jeune et de son souhait. Bien sûr, si le jeune nous raconte, nous indique qu'il souhaite retrouver ses parents, on mettra tout en œuvre pour les retrouver. Si le jeune nous indique, et dans la majeure partie des cas, c'est la situation, ils nous indiquent avoir été séparés de leurs parents, ne savent pas savoir où ils sont, ou leurs parents étant décédés, donc on n'a pas de raison de rechercher en fait ses parents.
Alors on va effectivement s'attacher à les observer et à les comprendre, ces jeunes, découvrir qui ils sont. Ils sont combien actuellement, au moment où nous nous parlons, en Haute-Garonne?
Au moment où nous nous parlons, ils sont 1179 pris en charge par le conseil départemental, dont la moitié est constituée de jeunes majeurs.
De jeunes majeurs, jeunes majeurs. Intéressant. Il en arrive tous les jours?
Il en arrive tous les jours.
Combien?
À peu près une dizaine par semaine.
10 par semaine. Et alors, ils viennent d'où, ces jeunes? Ils ont, alors, vous dites qu'il y a aussi des jeunes majeurs. Ils ont quel âge en moyenne et d'où viennent-ils?
Alors, la plupart d'entre eux arrivent aux environs de 16 ans et demi, 17 ans. Voilà. Et la grande majorité d'entre eux vient d'Afrique subsaharienne. On a quelques enfants qui arrivent d'Afrique du Nord également. Et plus à la marge, on a des jeunes qui viennent d'Asie, quelques Albanais aussi.
Ils sont arrivés par quels moyens sur le territoire et en Haute-Garonne en particulier?
Alors, ils ont réalisé un parcours migratoire important, donc ils se sont déplacés. Souvent, ils traversent la Méditerranée avec d'autres.
Ouais.
Voilà.
Ils vous disent les raisons pour lesquelles ils sont sur le territoire français, ils viennent chez nous?
Alors, certains nous indiquent effectivement donc fuir des zones de conflit.
Ouais.
D'autres viennent aussi pour dans le cadre d'une migration économique, en espérant trouver effectivement en France les moyens en fait de faire des études. Ils sont très très accrochés en fait à cette idée-là de faire des études et de pouvoir effectivement subvenir à leurs besoins.
C'est l'Eldorado qui leur est promis, hein, c'est ça, hein, qui les fait venir ici, c'est ça?
Pour certains.
Pour certains, c'est comme ça qu'ils le voient. Alors quel est leur parcours, leur porte d'entrée quand ils arrivent au département? Quelle est la première porte qu'ils ouvrent et pourquoi ils viennent vers vous?
Alors la première porte qu'ils ouvrent, alors on fait un accueil inconditionnel. Donc la première...
Ça veut dire qu'on accueille tout le monde.
On accueille tout le monde. Toute personne qui se présente mineure privée, donc temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, c'est-à-dire en fait mineure isolée, bénéficie d'un accueil inconditionnel et est mis à l'abri.
Donc il a un toit automatiquement.
Tout à fait.
Et ça se passe où? C'est quoi la première porte? Comment ils savent où aller?
Alors, certains arrive directement au dispositif départemental d'accompagnement et d'orientation et d'évaluation des mineurs isolés.
Le DAOMI,
ouais. Voilà. D'autres arrivent au conseil départemental et nous les orientons vers le DAOMI. D'autres sont amenés en fait par le commissariat. D'accord. Puisqu'ils ont été repérés dans la rue et donc du coup sont accompagnés au DAOMI.
Et alors il se passe quoi ? Donc accueil inconditionnel, donc mise à l'abri ou...
Mise à l'abri, alors on a travaillé tout un parcours, d'abord une mise à l'abri, et puis dès la mise à l'abri commence une phase d'évaluation conduite à partir en fait d'un référentiel, à l'appui d'un référentiel national, puisque donc la loi en fait fixe un référentiel, et on va évaluer en fait la situation du jeune, c'est-à-dire la question de la minorité, mais surtout la question de son isolement.
Ça veut dire que vous pouvez remettre en question son isolement ?
Alors, ça peut arriver. C'est-à-dire qu'en fait, on va travailler sur le parcours. Donc, on a plusieurs faisceaux d'indices, son histoire, son parcours, son niveau scolaire aussi, l'observation de son comportement. Et effectivement, ça va déterminer, en fait, on va travailler donc sur une évaluation qui devrait prendre en fait 5 jours, puisqu'on est dans le cadre d'une mesure de protection administrative, d'un recueil provisoire d'urgence. Bien sûr, on informe le procureur, enfin le parquet tout de suite, effectivement, dès l'accueil en fait d'un mineur dans notre dispositif, dans le cadre de l'accueil d'urgence. Et cette évaluation, en réalité, elle prend entre 12 et 20 jours actuellement, 20-21 jours.
Et avec cette question également épineuse parfois, d'établir la minorité du jeune. Hein, et c'est ce qui a fait un peu polémique avec le malheureux événement dont je parlais, hein, cette attaque près des locaux de Charlie Hebdo. Le jeune prétendu mineur ne l'était pas, c'est ça ? C'est ça que vous essayez d'établir, c'est la minorité.
C'est la minorité.
Sur quelle base ?
Et l'isolement. Eh bien, sur la base donc, de son parcours.
La minorité, j'entends. Comment est-ce que vous l'établissez ?
Et sur la base des papiers qu'il va produire. Donc, certains, effectivement, produisent des papiers, d'autres les ont perdus. Et du coup, on va se focaliser, en fait, sur le parcours du jeune. En cas de doute, le doute bénéficie au jeune et on va l'accueillir. Enfin, on va saisir le procureur.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est tout le bien fondé de la loi française, c'est que le doute bénéficie aux mineurs, et on est dans un contexte déclaratif, en fait.
Oui. On est dans un contexte déclaratif puisqu'ils nous livrent leur parcours et on fait effectivement avec la matière qu'ils nous apportent.
Alors, il y a quand même des tests de maturité osseuse qui peuvent être faits si vous avez vraiment, pour lever vraiment un gros doute. Hein.
Alors, les tests osseux sont réalisés à la demande du parquet.
D'accord.
Voilà. Et s'il y a un doute, effectivement, le parquet peut demander un test osseux, le poignet ou la clavicule.
Alors, une fois qu'il est après ce parcours d'évaluation, vous nous avez dit que normalement c'est 5 jours, mais ça pouvait aller jusqu'à une vingtaine de jours. Pendant cette durée, le jeune est mis à l'abri. Vous avez évalué son âge. Une fois qu'il est authentifié mineur, qu'est-ce qui se passe pour lui ?
Alors, donc on a évalué son âge, son niveau scolaire, etc. Il a bénéficié aussi d'un bilan de santé pendant cette phase d'évaluation. Et ensuite, effectivement, donc, s'il est donc reconnu mineur, il nous est confié. Il nous est confié et là, il relève comme les autres mineurs en fait, qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, de la protection de l'enfance. Et il bénéficie donc d'une orientation adaptée à sa situation et à son besoin et d'un référent ASE, en fait, d'un travailleur social qui va l'accompagner durant son parcours de prise en charge à l'aide sociale à l'enfance. Et on va travailler avec lui sur son insertion, sur sa scolarité. Hein, puis on va l'accompagner donc dans ses démarches d'insertion, de formation qualifiante. C'est ce qui lui permettra après d'obtenir un titre de séjour.
Ça, c'est le but visé, l'obtention d'un titre de séjour ?
Le but visé, effectivement, c'est le titre de séjour pour effectivement pouvoir s'insérer ensuite.
Mais l'obtention, ça sera pour quand il sera majeur.
Quand il sera majeur.
Pour le moment, ce n'est pas le sujet. Pour le moment, le sujet, c'est d'en faire un jeune inséré, scolarisé. Où est-ce qu'il va être amené à vivre ?
Alors, il est amené à vivre. Alors, le département, ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'avons pas de jeunes de MNA à l'hôtel.
MNA, c'est mineur non accompagné,
excusez-moi, ouais. À l'hôtel, puisque le département, en 2016, a fait le choix d'arrêter les prises en charge à l'hôtel. Et du coup, tous les jeunes qui nous sont confiés sont accueillis dans des maisons d'enfants à caractère social, des lieux de vie, des résidences habitat jeunes, dans des lieux adaptés à leur situation et à leurs besoins.
Avec d'autres enfants qui ne sont pas forcément des mineurs non accompagnés, mais qui sont des enfants qui ont des difficultés telles ou telles et qui se retrouvent dans ces maisons.
Tout à fait.
D'accord. Et dans ces maisons, ils sont scolarisés, ils ont un tuteur.
Alors, ils sont scolarisés ou effectivement plus orientés sur un parcours d'apprentissage. Hein, ça dépend effectivement de leur niveau scolaire. Et ils bénéficient, ils font de loisirs, du sport. Et on travaille vraiment sur toute l'insertion, en fait.
Vous avez dit que le département a fait le choix. Ça veut dire que dans le cadre de la loi, qui est celle d'accueillir et de protéger ces jeunes qui sont pour certains des enfants, il y en a des très jeunes, vous m'avez dit en préparant cet entretien, le département a pour autant a le choix d'adopter telle ou telle politique ?
Alors effectivement, les départements s'administrent librement et du coup effectivement, c'est le niveau d'intervention en fait qui va différencier les modalités de prise en charge d'un département à l'autre. Voilà. En Haute-Garonne, il a été décidé donc d'accueillir ces mineurs, ces enfants, comme les autres enfants en fait, de l'aide sociale à l'enfance et de les intégrer dans le parcours.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a des départements qui accueillent plus facilement ou qui ont une politique plus favorable à l'accueil de ces enfants ?
Alors là, je
ne
sais pas.
Piège,
mais
c'est
la
question
piège.
Il y a
des départements aussi, effectivement, qui accueillent ces jeunes à l'hôtel. On a pu le voir.
Et effectivement. Et alors, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces enfants ? Vous avez dit qu'ils sont pris en charge, ils vont à l'école ou ils sont en apprentissage. Lorsqu'ils ont 18 ans, ils sont relâchés dans la nature ?
Pas du tout. Donc,
pas du tout.
Puisque donc, là aussi, encore une fois, donc, notre département a fait le choix de maintenir en fait, des contrats jeunes majeurs. Et donc, à leur 18...
Des contrats jeunes majeurs ?
Des contrats jeunes majeurs.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, en fait, c'est un dispositif qui a été créé en 1974, au moment où la majorité en fait, est descendue de 21 ans à 18 ans. Et effectivement, pour continuer en fait, à prendre en charge des jeunes en fait, qui demeuraient toujours en difficulté à 18 ans. Mmh. Donc les mineurs non accompagnés bénéficient des mêmes droits en fait, que l'ensemble des mineurs que nous accueillons dans le dispositif de
protection
de l'enfance.
C'est un SAS en fait, avant de les faire retourner dans le droit commun ?
C'est un SAS avant de les faire retomber effectivement dans le droit commun, qui permet finalement de finaliser leur parcours. Donc certains sont engagés dans des études supérieures, d'autres dans des formations qualifiantes, et c'est effectivement le petit plus qui va leur permettre d'aller au bout de ce parcours.
Et d'accrocher un titre de séjour.
Et effectivement, donc, à 18 ans, s'ils ont effectivement, on dépose en fait le dossier, lorsqu'ils se sont engagés 6 mois avant le dépôt du titre dans un parcours en fait de formation qualifiante. Voilà.
Est-ce que c'est un échec pour l'aide sociale à l'enfance lorsqu'à 18 ans, il n'y a pas de contrat jeune majeur et que le jeune doit rentrer au pays ? Est-ce que ça arrive ?
Alors, on a peu, en fait, on a aujourd'hui plus de 660 contrats jeunes majeurs
c'est la majorité.
Donc, c'est quand même la majorité d'entre eux. Ce sont des jeunes qui ont envie de s'insérer, qui sont là donc pour cette raison, qui veulent faire des études, qui veulent des formations qualifiantes, qui veulent travailler en France. Et donc, du coup, effectivement, on a en règle générale des contrats jeunes majeurs et on arrive à les accompagner jusqu'au dépôt du titre. Et lorsqu'ils l'obtiennent, ce sont des jeunes qui s'intègrent parfaitement, qui ont accès au logement et qui...
Et vous arrivez à les suivre ou à ce moment-là, il faut malheureusement, j'ai envie de dire, les lâcher et leur donner la possibilité de vivre leur vie. Est-ce que vous avez un retour sur eux ? Est-ce qu'ils reviennent parfois ?
Alors, à un moment... Alors, il y en a qui ont tissé des liens très forts, en fait, avec les lieux d'accueil où ils vivent. Il y en a qui ont tissé aussi des liens très forts avec leurs référents à eux. Et du coup, effectivement, il peut y avoir aussi quelques informations sur leur parcours.
Eh bien, merci beaucoup, Véronique Desfours. C'était très clair. Grâce à vous, on en sait plus sur le parcours de ces mineurs non accompagnés. Il y en a 1179 pris en charge aujourd'hui par le département de Haute-Garonne que vous représentez. Merci à vous. Bravo pour cette mission.